Maintenant, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, pour commencer, l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, un seul verset. Matthieu 9 et le verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Et le psaume 23, que nous connaissons bien déjà, sur lequel nous allons revenir ce matin, le psaume 23 qu'on va lire dans son intégralité, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. Je vous propose un moment de recueillement avant d'entrer dans quelques explications. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs ce matin à recevoir ton enseignement. Tu es merveilleux, tu connais les besoins les plus secrets de chacun de tes enfants. Et ce matin, tu veux adresser une parole inspirée, personnelle et correspondant à chaque situation. Viens par ton onction précieuse inspirer ce message et que nous soyons comme une terre hospitalière pour recevoir ta parole et lui permettre en nous de porter de merveilleux fruits. Viens, Seigneur, en l'espace de ce message, rassurer, relever, encourager, fortifier la foi et nous maintenir tous dans la victoire de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur, nous t'en bénissons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous connaissons bien sûr ce psaume 23, je pense ne pas me tromper en disant que c'est certainement le psaume le plus célèbre parmi les 150. Il est presque même devenu un psaume culturel, on le lit presque automatiquement dans les services funèbres, inhumation ou autres. L'Éternel est mon berger, mais j'aimerais, et je prie pour qu'il en soit ainsi par le Saint-Esprit, j'aimerais que nous puissions comme redécouvrir ce psaume 23 dans la richesse qui est la sienne. Son auteur, c'est le roi David. La plupart des commentateurs bibliques s'accordent pour dire que David l'a probablement rédigé vers la fin de sa vie. Il est donc en train de dérouler le film de sa marche spirituelle. Et il nous partage son vécu. Les cinq premiers versets, parmi les six là, les cinq premiers versets nous informent du vécu du roi David. Le dernier verset est le seul verset au futur et il exprime l'espérance de David, mais il nous partage la réalité de sa marche spirituelle avec le Seigneur et j'aimerais, eh bien, vous prendre par la main, hein, ce matin et que nous puissions aller découvrir ou redécouvrir les trésors que renferme tout le parcours de cet homme avec son Dieu. Je dirais que tout commence par l'Éternel est mon berger. Tout commence par là. C'est de là aussi que tout le reste découle. L'Éternel est mon berger, c'est le témoignage d'un choix personnel de David. C'est une décision personnelle, parce que l'Éternel n'est pas forcément le berger de tous. Il n'est pas automatiquement le berger de tous, mais il le devient quand on le désire. Amen. Une question en passant, Dieu est-il ton berger? Est-ce qu'un jour, dans ton cœur, et par une décision éclairée et immuable, tu as fait le choix d'adopter Christ comme le berger de ta vie? C'est un choix, une décision. On pourrait assimiler cette parole comme l'expression de la conversion, parce que tout commence quand je me convertis. Amen. C'est de ma conversion, de la profondeur de ma conversion, de son authenticité, de son intensité, que tout le parcours qui va suivre aura lieu. L'Éternel est mon berger. Quelquefois, nous entendons des moqueurs dire oui, mais ça c'est la foi, c'est pour les gens faibles, ils ont besoin de se raccrocher à des branches. Alors, moi, quand je vois David, c'était pas un homme faible. C'était pas un homme faible. C'était pas une demi-portion. Tout jeune, il a démontré du caractère, du tempérament. Et si nous relisions la biographie de David, nous observerions que cet homme, très tôt et jusqu'à la fin, a été un homme vaillant, un homme entreprenant, un homme volontaire, un homme trempé, un homme responsable, et il n'avait rien d'un faible. Mais malgré toutes ses qualités humaines, il a compris une chose, c'est qu'il avait quand même impérativement besoin que Dieu soit son berger. Il avait compris que s'appuyer sur sa propre force, son caractère volontaire, tout cela n'était qu'illusion. Il a compris que la vraie force, la vraie sécurité, la vraie stabilité découlerait nécessairement de cette décision de choisir Dieu comme son berger. Et je prie le Seigneur pour que si parmi nous, quelqu'un n'a pas fait encore personnellement cette démarche, il la fasse ce matin. Choisis Jésus comme ton sauveur. Choisis-le comme ton Seigneur. Choisis-le comme ton berger, lui qui a dit « Je suis le bon berger ». Ce bon berger qui n'a pas hésité à donner sa vie pour ses brebis, comme nous l'avons chanté et célébré une fois de plus par la Sainte Cène, je prie et je presse affectueusement toute personne ici présente qui n'a pas fait encore ce choix de le faire ce matin, sans le reporter à plus tard. C'est un temps de grâce, de salut que Dieu nous donne de vivre là, maintenant, dans ce lieu. Je me tiens à la porte, va dire Jésus, et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, j'espère que tu entends la voix du Seigneur, et s'il m'ouvre, oh, j'entrerai chez lui. Et là, il va y avoir une intimité, une relation d'amour, que le Seigneur soit béni. L'Éternel est mon berger. Tout commence là, tout découle de là. Lorsque Jésus, nous l'avons lu, a vu cette foule s'approchait de lui, ses entrailles ont été émues de compassion, et la raison nous en est donnée. Il fut ému de compassion parce que cette foule ressemblait à des brebis qui n'ont point de berger. Et par conséquence, ils étaient abattus et ils étaient perdus, désespérés. Quoi de plus dramatique qu'une brebis sans berger ? Sans berger. Ne reste pas sans berger ce matin, mais donne ton cœur au Seigneur. Alléluia. Et que ce merveilleux sauveur qu'il est devienne ton berger. Oh, j'aime beaucoup ce pronom possessif. L'Éternel est mon berger. Amen. Oh oui, il est aussi le berger de papa, de maman. Il est forcément le berger du pasteur. C'est un minimum. Il est le berger de mes frères, de mes sœurs. Mais je me réjouis principalement parce qu'il est mon berger et qu'il y a entre lui et moi une relation privilégiée, intime et personnelle. Alors bien sûr, par le fait que Dieu était le berger de David, il y a des conséquences merveilleuses. Et j'aimerais relever une succession de verbes qui nous expriment une évolution. Il me dirige, il me conduit, et quand je marche. C'est vrai que le berger a la responsabilité de gérer son troupeau, et c'est ainsi que Dieu veut gérer ta vie, qu'il veut gérer la mienne. Et dans la gestion de ma vie, Dieu s'y emploie comme un éducateur. Premièrement, il me dirige. Puis, il me conduit. Et enfin, je marche. Mais tu es avec moi. Lorsque nos enfants étaient toutes petites, il y en avait une surtout, la speed, la cadette. Nous avions été contraints de lui imposer, lorsque nous sortions, nous promener, certaines règles. Au début, nous lui imposions de garder sa main dans la nôtre. Et nous la dirigions. Et lorsqu'elle voulait... Non, tu viens là. Nous la dirigions. Et puis elle a grandi quand même. Pas trop en taille, mais elle a grandi. Alors après, elle a souhaité avoir un peu de latitude. Mais mon épouse lui disait, je veux que tu sois toujours devant moi. Tu vas, mais je veux te voir. Bon, maintenant, elle marche toute seule, hein, en s'appuyant sur l'aide de son Dieu, parce qu'elle aussi a accepté Christ comme son berger. Il y a ces trois dimensions, ces trois aspects. Dieu nous dirige. C'est-à-dire que nous nous abandonnons à sa volonté parce que nous avons compris son immense amour et son intention bienveillante. Nous lui faisons une confiance totale. Fais-tu une confiance totale au Seigneur ce matin ? À ce Dieu qui ne se trompera jamais, à ce Dieu qui a pour ma vie des plans parfaits, infaillibles. Il n'y a rien de meilleur que ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, convaincu de la chose, tu le laisses te diriger. Et il nous dirige, et connaissant nos besoins prioritaires, il nous dirige dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Les pâturages luxuriants nous parlent d'une nourriture de qualité. Amen. Et les eaux paisibles nous parlent de la vie du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La nourriture calorique est d'une qualité parfaite de la parole de Dieu dans ta vie Et l'action vivifiante du Saint-Esprit qui te visite, voilà vers quelle bénédiction Dieu dirigera toujours ton cœur. Nous ramener à nous nourrir de sa parole et à nous désaltérer dans des moments de visitation par le Saint-Esprit, afin que tout notre être soit maintenu dans un état de tonicité, de vitalité et de santé optimale. Dieu te veut en bonne santé. Oui ou non? Réagissez un peu. Amen. Dieu te veut rayonnant, resplendissant. Daniel et ses trois amis, au terme d'un régime qui, à vue humaine, n'était pas les mieux indiqués pour faire prospérer physiquement, eh bien, ils avaient une meilleure santé que tous les autres. Dieu est premièrement en souci de te nourrir et de te désaltérer. C'est la première urgence. Et là, j'allais dire quelque chose, mais je vais le dire quand même, il n'y a pas le choix. Dieu dirige. Il n'y a pas le choix. C'est impératif. Dieu te dit, nourris-toi, bois. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Élie, son prophète en dépression? Il lui a dit, lève-toi, allez, mange et bois. Manger quoi? Manger un pain, un gâteau dont lui-même était l'auteur, et bois. C'est eau fraîche qui va te faire du bien, et la conjugaison de ce gâteau et de cette eau fraîche a fait que Élie a été habité d'une énergie qui lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. C'est pas mal, hein? 40 jours, 40 nuits, le chiffre 40 qui est le chiffre de l'épreuve et de la persévérance. Eh bien, oui, le pain et l'eau servie par le Seigneur à un prophète complètement désarçonné et désarticulé vont lui donner les ressources nécessaires. Et Dieu, ce matin, veut te donner les ressources. Il veut te donner la capacité, le courage, la vaillance, la persévérance, l'endurance, l'énergie, la force. Alléluia. Notre force ne se trouvera pas dans nos ressources naturelles, mais dans le Seigneur qui nous dirige. Et j'aimerais insister, mon frère, ma sœur, tu as besoin de revenir à ta Bible, de l'aimer, de la méditer, de la souligner, de la surligner, de la noter, de la mémoriser, de t'en nourrir, de te pénétrer des saintes Écritures. Et tu as besoin, oh, de vivre quotidiennement ces moments rafraîchissants, ou dans la communion avec ton Sauveur, le Saint-Esprit visite ton être intérieur. Alléluia! Comme une plante qui a été trop longtemps privée d'eau commence à avoir un aspect de déprime, et brusquement, on verse de l'eau, mais en 20 minutes, la plante, elle retrouve ses couleurs et sa vitalité. Eh bien, j'aimerais que tu repartes d'ici comme une bonne plante, belle plante. Amen. Que tu retrouves ta vitalité. Dieu veut nous diriger vers de verts pâturages et vers ces eaux rafraîchissantes et vivifiantes. Que le Seigneur soit béni. Et puis là, pendant que nous nous régalons de cette nourriture de qualité et de cette eau vivifiante, Dieu travaille. Et David dit, il restaure mon âme. Toute sa vie, David a eu besoin que Dieu restaure son âme, qu'il relève les dommages de l'existence. Il n'a pas eu une vie paisible, David. David, il a connu des tourments. Il n'y a qu'à lire certains de ses psaumes, des blessures, des chutes spirituelles, des chutes morales. Il a connu la culpabilité, il a connu l'adversité. Souvent, il exprime les manigances de ses comploteurs, d'hommes malveillants qui se concertent pour sa perte et qui se frottent les mains d'avance parce qu'ils ont l'impression que ça y est, il est à un pas de tomber enfin, de gens qui n'attendaient que sa chute. Il était entouré de toute cette société malveillante. Très tôt, adolescent, il a connu le mépris de ses frères, le mépris d'Eliab, de Shama, d'Abinadab. Il a été ridiculisé par Saül. Écoutez, ne me dites pas que Saül n'avait pas l'intention de ridiculiser ce jeune adolescent en lui disant « Tiens, prends mon armure ». Il savait d'avance quel aspect ridicule David aurait. Vous voyez, dans l'armure géante de Saül qui dépassait tout le peuple d'une tête, quand David a enfilé l'armure, on voyait plus que le haut de sa frange blonde là. Hein. Il avait l'air ridicule, c'était déjà du mépris, il a connu le mépris. Mon frère, ma sœur, tu rencontreras le mépris en chemin. Mais si l'Éternel est ton berger, il restaurera ton âme des blessures infligées par les mépris. Ne regrette pas certaines expériences douloureuses ou amères, mais au contraire, réagis en rappelant que l'Éternel est ton berger et qu'il restaure ton âme. David a connu le mépris, il a été menacé tant de fois, il a été moqué par sa propre femme, Michal, qui de la fenêtre... Allez, c'est pas possible. C'est le roi, lui. Il enlève ses babouches orientales et il se met à danser devant ses serviteurs, devant l'arche de l'Éternel. Il se... Oh là 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 là. Ouais. Que c'est déplacé. Et s'est moqué de son mari, n'est-ce pas? Il a connu cela, David. Il a été outragé par son fils Absalom qui, devant tout le peuple, a eu un comportement inqualifiable et déshonorant vis-à-vis de son père David. Il a connu des scandales familiaux lorsque Amnon va aller vers sa demi-sœur Tamar. Quel drame, quel scandale dans la famille même de David. Et il va connaître l'épisode d'Uri et de Bathsheba. Et on pourrait continuer pour dire, il a souvent eu besoin que Dieu restaure son âme. Amen. Ah, quand David rédige ces paroles, il restaure mon âme. Il y a le défilé de toutes ces circonstances qu'il a traversées. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Son cœur se remplit d'actions de grâce parce que aucun de ces événements négatifs n'a réussi à stopper la persévérance de David. L'Éternel a été son berger. Il a restauré son âme. Restaurer, c'est réparer. Restaurer, c'est relever. Restaurer, c'est faire une œuvre dont l'aboutissement est la totale disparition des difficultés traversées. Quand Dieu restaure, il me met dans un état, je dirais, encore plus fort que ce que j'étais avant que l'épreuve ne m'atteigne. C'est comme ça que Dieu veut te restaurer ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit te visite. Que la présence de Christ se fasse sensible à ton cœur. Parce que tu as besoin de restauration. Et ce n'est pas sur un simple plan, vous voyez, parce que l'art de restaurer, seul Dieu le possède. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ce n'est pas une démarche simplement dans une dimension psychologique ou de conseil, etc. Mais c'est une dimension miraculeuse. Et il ne faut pas longtemps au Seigneur pour restaurer une âme et la guérir même d'un problème ancien, complexe, douloureux. impressionnant, ben le Seigneur peut restaurer ton âme. Et voici que brusquement, tu es libre. Amen. Tu es libre. Tu es libre de cette douleur qui collait à ton cœur. Il t'a restauré. Que ce matin, le Seigneur nous restaure. Et demain encore. Et après-demain. Et jusqu'à ce que, eh ben, il nous accueille dans son ciel de gloire. Alléluia. Moi, je dis, parfois, dans certaines visites où il y a des drames de séparation brutale, un deuil prématuré, quelque chose qui nous arrache une partie de nous-mêmes, eh bien, j'ai l'habitude de dire que la disparition définitive de cette souffrance-là n'aura lieu que lorsque nous entrerons dans la maison du Père. Parce que la Bible nous dit là, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Amen. Et en attendant ce jour béni, en attendant ce verset 6, oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront, c'est l'espérance. En attendant cela, quotidiennement, dans ton parcours terrestre, l'Éternel, ton berger, va travailler à te restaurer, à t'encourager, à te dire, allez, je te donne une nouvelle mesure de ma bénédiction. Allez, ne te lasse pas, relève les mains, relève la tête, relève ta foi, retrouve ta joie, retrouve ton élan. C'est l'Éternel qui nous restaure, que Dieu soit béni. Alors je disais, il dirige, il conduit et je marche. En effet, nous arrivons à ce verset 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est un verbe, mais il y a tout un programme éducatif dans ce verbe. Tout un programme, parce que ce que Dieu veut, après avoir nourri, désaltéré, restauré, c'est faire de nous des croyants intelligents qui ont le discernement, qui sont instruits de sa sagesse, des croyants qui acquièrent peu à peu l'intelligence du Seigneur. Il veut me conduire par les instructions de sa parole. Il veut me conduire par la lumière qui veut éclairer mon intelligence. Il veut me conduire par ma compréhension des choses. La Bible nous parle, l'apôtre Paul en parle, du discernement des choses les meilleures. Il veut me donner du discernement. Il veut te donner du discernement. Et le discernement que Dieu aura communiqué à ton intelligence spirituelle va te permettre, eh bien, de marcher dans les sentiers de la justice. C'est quoi les sentiers de la justice ? C'est quoi les sentiers de la justice ? J'y ai réfléchi et j'ai trouvé que la meilleure manière de résumer ça, c'est de dire que c'est les sentiers du disciple de Jésus. Marcher à l'exemple de Jésus. Parce que la justice, la Bible me dit que Jésus a été fait pour nous. Justice, sagesse, rédemption, sanctification. La justice, c'est pas un ensemble de règles, mais la justice, c'est Jésus. La justice, c'est Jésus. Et vous savez que les dernières paroles du Seigneur ont été faites de toutes les nations des disciples. Tu es appelé, je suis appelé, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Afin que, lorsque on nous regardera, on voit Jésus. Amen. Marcher dans les sentiers de la justice, c'est marcher d'une manière que Dieu approuvera en permanence. Que Dieu approuvera. Alors pour ça, il y a un organe chez nous qu'il faut développer, c'est la sensibilité de notre conscience. Amen. La conscience, parce que Dieu veut sensibiliser notre conscience, soit en en approuvant, soit en désapprouvant. Et plus ma conscience sera sensible au témoignage de Dieu par le Saint-Esprit, et plus ma conscience maintiendra mes pas sur les sentiers de la justice. Vous voyez, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, c'est tout un programme. C'est marcher dans les sentiers de la justice, c'est marcher avec l'approbation de ma conscience qui, par le témoignage du Saint-Esprit, me dit « c'est bien, persévère dans cette voie ». Et il peut arriver de vivre le contraire, que notre conscience nous reprenne. Alors, moi je prie pour que notre conscience, à chacun, soit en bonne santé et que sa sensibilité à la voix du bon berger se maintienne. Vous voyez, moi, en prenant de l'âge, je commence à être un petit peu dur de la feuille, des deux feuilles. Là. Et je fais souvent répéter à ma femme « qu'est-ce qu'il a dit ?» Et je dis « mais il articule pas ». En fait, non, c'est mes oreilles qui commencent à perdre de leur sensibilité. Hein. Eh bien, au plan spirituel, nous avons besoin d'avoir une conscience. La conscience, c'est comme l'oreille de notre être spirituel qui capte les messages du Seigneur. Et que nous puissions ainsi marcher dans les sentiers de la justice, que nos choix soient inspirés, que l'orientation et les décisions que nous prendrons soient approuvées de Dieu, que nous puissions être attentifs au témoignage de notre conscience. Quelquefois, c'est pas du tout rationnel, mais c'est spirituel. Brusquement, on sait pas trop pourquoi, notre conscience nous dit « non, ne franchis pas ce pas ». Et c'est bon d'être sensible au témoignage de notre conscience. La Bible nous parle de ces hommes qui ont perdu la bonne conscience et qui font naufrage par rapport à la foi. Alors, voilà, il me conduit, donc il m'apprend le discernement, l'intelligence. Un chrétien doit grandir en intelligence spirituelle. Et puis, je le disais, verset 4, « Quand je marche, donc je marche, parce que voilà, Dieu veut nous mettre en disposition de marcher quand je marche. Heureusement, tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, que Dieu soit béni. » Oui, parce que ce n'est pas une marche facile et évidente, la marche chrétienne dans un monde enténébré, c'est un défi de chaque jour. Voilà. Si en prenant le baptême un jour, tu pensais entrer dans une vie absolument imperturbable, où tu n'aurais devant toi que des pétales de rose, rassure-toi, il y aura aussi des épines. La marche chrétienne, c'est un défi de chaque jour, mais je marche, gloire à Dieu, je marche, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, la présence du Seigneur, promise en permanence. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, cette houlette et ce bâton nous font comprendre qu'il existe des dangers potentiels qui nous guettent. La houlette, une longue tige de bois avec une extrémité plate comme une pelle, comme les pelles US hein, des armées, et l'autre extrémité incurvée. Et cet instrument permettait au berger d'intervenir en deux circonstances dangereuses, négatives. Lorsque le berger, qui promenait de son regard tout le troupeau, apercevait une brebis prenant un peu de distance et s'écartant du troupeau, alors avec cette extrémité plate, le berger prenait une motte de terre et il lançait la motte de terre devant les pattes de la brebis qui se reprenait et qui corrigeait son orientation et qui revenait vers le troupeau. Ne t'écarte pas du troupeau, mon frère, ma sœur. Ne t'écarte pas du troupeau. Le chapitre le plus sordide et le plus négatif du livre de la Genèse, c'est le chapitre 38 qui commence par cette parole. Judas s'écarta de ses frères. Judas s'éloigna de ses frères. Et quand vous lisez les événements horriblement honteux qui sont dépeints dans tout ce chapitre 38, vous dites que s'écarter de la communion fraternelle nous expose à vivre des expériences tellement négatives, tellement humiliantes et pas du tout à la gloire du Seigneur. Tant que je suis avec mes frères et mes sœurs dans le troupeau, mais je suis en sécurité. Et quand le berger voit que je prends un peu de distance, avec cette extrémité, il m'envoie des avertissements. Reviens, reviens. Vous voyez, et quelquefois il y a un don spirituel. Quelquefois il peut y avoir une prédication particulière. Quelque chose qui est comme envoyé par le Seigneur pour nous ramener dans une intime communion fraternelle. Que Dieu soit béni. Et puis avec l'autre extrémité incurvée, alors l'extrémité plate c'était du préventif et l'extrémité incurvée c'est du curatif. C'est-à-dire que là, la brebis, elle s'est tellement écartée qu'elle est tombée dans une fosse. Et le bras n'est pas assez long, alors il y a la houlette. Et le berger avec sa houlette incurvée va récupérer autour de l'abdomen de la brebis et va tirer et ramener la brebis en sécurité. Que le Seigneur le fasse ce matin. Si parmi nous, quelqu'un a l'impression d'être allé trop loin, peut-être as-tu l'impression que ta situation n'est pas rattrapable, eh bien détrompe-toi, le bon berger a le pouvoir de te rattraper et de te ramener, de te sortir du fourré où tu t'es perdu là, hein, et il va te ramener, te restaurer, te rétablir, te réhabiliter et te remettre en bonne disposition pour poursuivre le chemin de la persévérance. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi je ne crains aucun mal. Et puis, on va un peu plus loin et avant de terminer, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ça, c'est aussi la volonté de Dieu. Il y a des adversaires, et il y a surtout l'adversaire. Alors tantôt, il agira d'une manière frontale, dans une opposition affichée. Tantôt, il aura des démarches subtiles. Il est le rusé, il est le malin. Mais la Bible nous enseigne que Dieu nous a dotés de tous les moyens efficaces pour déjouer ses ruses et pour le faire fuir. Le premier moyen, c'est un mémorial. Cette table qu'il dresse comme un mémorial. Et ce mémorial, ben, ça nous rappelle la table où ces deux emblèmes nous rappelle que si adversaire il y a, il est vaincu. Amen. Un pasteur disait un jour, si le diable t'accuse et s'il te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Ça va le calmer. Rappelle-lui qu'il est vaincu. Rappelle-lui que ces accusations les plus insidieuses, les plus subtiles, n'ont pas de point d'ancrage parce que tout est accompli, a dit Jésus à Golgotha. Et j'ai besoin de ce mémorial. Et j'ai besoin que ma mémoire soit rafraîchie constamment sur les portées infiniment glorieuses qui découlent du « tout est accompli » de Jésus. Mon châtiment, il l'a porté. Mes chefs d'accusation, il en a subi les conséquences à ma place. Mon péché a été vaincu. Le diable a vu sa tête transpercée comme l'ancienne prophétie. Le diable a été vaincu. Paul dira aux Colossiens, Christ a dépouillé les dominations. Amen. Il a triomphé d'elles en les offrant publiquement en spectacle. La table dont parle David, c'est la table de la victoire de Christ qui devient aussi ma victoire par le fait qu'il est mon berger. Si tu vis un épisode agité dans ta marche chrétienne, si les traits enflammés de l'ennemi semblent te viser particulièrement, ne te laisse pas perturber, ne te laisse pas faire, mais rappelle ce mémorial. Celui qui est ton garant, Christ ton berger, a vaincu l'adversaire. C'est la table de la victoire. Et puis, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les bergers en Israël avaient constaté une chose. C'est que lorsque leurs brebis étaient là, en train de brouter, l'herbe, il arrivait parfois qu'elle s'approche d'un serpent qui était caché dans des touffes épaisses. Et en s'approchant, quelquefois, le serpent arrivait à mordre la brebis, qui était bien sûr soit foudroyée par un venin violent, soit très très perturbée. Alors, ils ont compris une chose, c'est que en déversant de l'huile sur la tête et le museau de la brebis, lorsque la bête broutait, l'huile dont elle était ointe dégageait une odeur qui dérangeait fortement le serpent. Et le serpent fuyait rien qu'à l'odeur de cette huile. Quelle image. C'est l'onction du Saint-Esprit sur ta vie qui va te donner l'autorité spirituelle telle que l'ennemi en personne sera mis en fuite. Quand ma Bible me dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous », je comprends qu'il est possible donc qu'il se dégage de ma personne quelque chose qui va faire fuir l'ennemi. On est toujours tristes, nous les pasteurs, lorsque l'on voit des bien-aimés, des enfants de Dieu, des bien-aimés, perdre leur joie, perdre leur assurance et vivre une marche fortement troublée, perturbée, parce que tout simplement, face aux agissements de l'adversaire de leur âme, le diable, ils n'ont pas pris conscience que l'onction du Saint-Esprit sur leur personne va exprimer une autorité qui va faire fuir l'ennemi. Alors voilà, il y a ainsi des bien-aimés qui ils voient le diable partout, en dévalant quelques marches d'escalier, ils en ratent une, ils tombent, c'était le diable qui était caché derrière l'escalier, enfin ils voient le diable partout, ils s'épuisent à lutter contre les agissements d'adversaires, ils s'épuisent et comme c'est inefficace, ils passent leur temps, leurs énergies, ils sont obnubilés, ils sont là complètement accaparés par un faux combat, un mauvais combat. Ce dont je dois prendre soin, moi qui vous prêche de tout mon cœur, je le dis devant le Seigneur, c'est que son huile soit abondamment répandue sur mon être. Amen. Et quand il y a un chrétien, une chrétienne, rempli du Saint-Esprit, qui vient de passer tôt le matin un temps merveilleux avec le Seigneur, le berger qui a répandu son huile sur sa tête, alors on est prêt à affronter la journée, dont on ne sait pas ce qu'elle sera faite, la journée. Mais quoi qu'il en soit, on est équipé, on est armé, il y a cette huile sur nous, dont le parfum dérange l'adversaire et le fait fuir, que Dieu soit béni. Je terminerai avec ce témoignage, avant de prier, ce témoignage de cet homme de Dieu, un homme de prière, un ministère vraiment merveilleux, qui un jour a été invité par le directeur d'une usine en Angleterre à visiter les ateliers de l'usine. Et donc, il a dit « Oui, je suis intéressé ». Donc, il est là, il entre dans le premier atelier. Et donc, on sait d'avance que c'est un homme de Dieu. Et tous ces ouvriers se mettent à rire, à faire des plaisanteries déplacées. Et l'homme de Dieu le voit bien, mais il est là. Et puis, dans un autre atelier, alors uniquement des ouvrières. Alors, quelquefois, moi j'ai travaillé en usine, quelquefois les femmes vont plus loin encore dans la moquerie. Alors ces femmes se sont mises à rire grassement. Ah, c'est un homme de Dieu, c'est un... Voilà, elles se sont moquées. Mais lui était loin de l'huile du Saint-Esprit. Et silencieusement, il a invoqué le Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Sont aveuglés, mais toi, Seigneur, visite-les. Et à un moment donné, il y a une ouvrière qui, étrangement, n'a plus du tout eu envie de rire. Elle s'est arrêtée, là, de rire. Les autres, elles étaient encore dans l'élan, mais elle... Puis, la conscience de sa misère est venue dans son cœur, et au lieu de rire, elle s'est mise à pleurer. Et puis deux, et puis quatre, et puis toutes les ouvrières de l'atelier, en quelques minutes, ont été convaincues de péché. Et elles se sont mises à pleurer sur leur misère. Et Dieu a visité cette usine, que le Seigneur soit béni. Quand tu vas en fac, au collège, au lycée, dans ton bureau, dans ton milieu professionnel, si préalablement l'huile d'en haut a coulé sur ta personne, tu vas dégager quelque chose. Alléluia. Tu ne vas pas subir, mais tu vas, toi, prendre le pas sur les agissements d'adversaires, et tu vas être ce témoin du Sauveur. Alléluia. Et ta lumière va prendre le dessus sur l'adversité. Que le Seigneur soit béni. Et puis, juste, je le signale, le seul verset au futur, c'est le verset 6, qui commence par... un oui, qui est une affirmation que personne ne peut ébranler. Oui, j'en suis sûr, malgré les adversaires, malgré les besoins de restauration, malgré tout. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront 2 jours par semaine. Non, 3. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, et il y a une certitude qui bouillonne dans mon cœur, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça, c'est notre point de mire. Hein, gloire à Dieu. Hein. Oui, nous marchons sur dans cette société difficile, mais nous avons ce oui merveilleux qui résonne. Bientôt approche l'entrée dans le parfait. Que le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu as mis ta vie entre les mains toutes puissantes de Christ, le bon berger? Est-ce que tu le laisses te diriger, te conduire? Est-ce que tu marches en t'appuyant sur sa présence? Est-ce que tu bénéficies de sa restauration? Est-ce que tu es renouvelé dans l'onction du Saint-Esprit? Voici quelques points que je voulais extraire de ce merveilleux psaume, que nous puissions le vivre. Moi, je veux vivre le psaume 23. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et prier tous ensemble le Seigneur? Alléluia, dire Seigneur,